journal, Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. La Joconde, l'homme du Vitruve, la Madone Benoît, la Sainte Anne, Léonard de Vinci, un demi-siècle après sa mort, dans toute sa splendeur, c'est au Louvre à partir d'aujourd'hui. Exposition exceptionnelle et d'ores et déjà hors norme. Visite en avant-première dans ce journal. Plan B comme Breton, Thierry Breton, proposé à l'instant par Emmanuel Macron au poste de commissaire européen, 2 semaines après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard. Les municipales et le casse-tête des investitures, on en parlait hier pour le Rassemblement National. Cette fois, c'est sur la majorité qu'on se penche avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, il s'agit du délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini. Il est l'invité du grand entretien dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000 ou passez par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans l'actualité du jour également, Carlos Ghosn hurle à la collusion politique. L'ancien PDG de Renault a demandé ce matin l'annulation des poursuites devant le juge japonais. La Bolivie divisée en deux, partisans d'Evo Morales et de son rival à la présidentielle Carlos Mesa s'affrontent dans les rues. Et puis ne dites plus blue jean mais jean vert. Une entreprise de Lozère a inventé le jean écolo.
France Inter.
C'est l'exposition de tous les superlatifs en termes d'affluence. Déjà 260 000 billets vendus alors qu'elle n'a pas encore ouvert ses portes. En termes d'œuvres présentées, surtout 163 tableaux et dessins venus du monde entier, musées ou collections privées. Et cet homme de Vitruve, bel et bien là. Mais attention, pour 2 mois seulement. Ce que les premiers amateurs vont pouvoir découvrir au Louvre dans 1 heure a nécessité 10 ans de préparation et est tout simplement exceptionnel. Jacqueline Pétrose.
Comment pourrait-il en être autrement? Léonard a laissé des milliers de documents et une quinzaine de tableaux seulement de sa main. Hors norme déjà, l'exposition qui présente 10 tableaux de Léonard, dont la Madone Benoît du musée de l'Ermitage et le Saint-Jérôme du Vatican. Près exceptionnel aussi, le bronze magistral de Verrocchio, Saint Thomas et le Christ. Venu de Florence, il ne reviendra pas de sitôt en France. Pour les dessins et les codex, les provenances donnent le tournis. Milan, Seattle, New York, la fondation Bill Gates, Madrid. Et si l'actualité s'est focalisée sur l'Italie, le prêt le plus fabuleux vient d'Angleterre. Vincent de Lieuvin, l'un des commissaires de l'exposition.
La reine d'Angleterre nous a prêté 24 dessins, ce qu'ils ne font que pour des institutions anglaises, la National Gallery. Le British Museum, la National Gallery, nous a prêté le grand carton qui ne prête à personne d'autre. Léonard de Vinci, c'est l'exposition la plus difficile à monter pour le musée du Louvre. C'est la plus belle réunion de peintures et de dessins jamais faite sur Léonard de Vinci.
Hors norme aussi, bien sûr, les précautions de conservation. L'homme de Vitruve, par exemple. Le papier vieux de 500 ans est fragile. Enfermé dans une mince vitrine, au verre sécurisé, l'hydrométrie et surtout le taux de lumière sont analysés. Et l'exposition est limitée à 2 mois. Enfin, rarement exposées, les incroyables reprographies infrarouges où l'on voit l'invisible, les corrections apportées par la main même de Léonard à Sainte-Anne ou à la Joconde.
L'exposition Léonard de Vinci, c'est donc au Louvre jusqu'au 24 février prochain sur franceinter.fr pour tout découvrir de ses secrets de fabrication et dans le journal de 13h avec l'un des commissaires de l'exposition invité de Bruno Duvic.
Il est 8h04, après Sylvie Goulard, au tour de Thierry Breton de tenter sa chance au poste de commissaire européen.
Annonce de l'Elysée, il y a un peu moins d'une heure, l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, passé par France Télécom et actuel PDG du géant informatique Atos, va donc tenter de réussir là où Sylvie Goulard a échoué 2 semaines après le rejet massif de la candidate française, plombée par l'enquête judiciaire qui la vise en France. Emmanuel Macron mise donc sur cet homme qui maîtrise à la fois politique et monde économique. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Strasbourg. Thierry Breton, c'est avant tout le candidat qui coche donc toutes les cases.
Oui, c'est un profil qui permet à la France de conserver ce très large portefeuille négocié avec la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le marché intérieur, la défense, l'espace, la politique industrielle, mais aussi le numérique et la culture. Et c'était essentiel pour Emmanuel Macron en termes d'influence à Bruxelles. À 64 ans, Thierry Breton a été ministre de l'économie de Jacques Chirac avec la tutelle de l'industrie, c'est important. Comme chef d'entreprise, celui dont on dit qu'il est très gros travailleur a redressé France Télécom. Et il dirige depuis 10 ans Atos, entreprise de services numériques. Il sera donc à l'aise avec ce domaine affiché comme une priorité de la future commission. C'est aussi un Européen convaincu, dit l'Elysée. Il connaît enfin Ursula von der Leyen avec qui il a travaillé lorsqu'elle était ministre de la Défense. L'Elysée qui voulait une femme mais qui n'a donc pas trouvé la perle rare. Un profil costaud donc, mais après la déconvenue Goulard, reste encore à passer l'étape des auditions au Parlement européen. L'Elysée assure que son candidat a toujours fait preuve de rigueur pour éviter tout conflit d'intérêts. Les eurodéputés ne manqueront pas pas de le vérifier.
Thierry Breton qui vient donc d'être proposé par Emmanuel Macron au poste de commissaire européen. Emmanuel Macron, lui, poursuit aujourd'hui sa visite à la Réunion avec l'emploi en ligne de mire. Le chef de l'État a aussi promis des messages très forts sur l'agriculture. La contre-attaque de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault, en détention depuis près d'un an déjà, a comparu ce matin devant un juge japonais. L'occasion pour lui de s'expliquer enfin sur le fond des accusations de dissimulation de revenus et d'abus de confiance aggravés dont il est l'objet. L'occasion aussi pour ses avocats de demander purement et simplement l'annulation des poursuites. À Tokyo, Yann Rousseau.
Les avocats japonais de Carlos Ghosn étaient tous aux côtés de l'ancien patron ce matin au tribunal de Tokyo. Ils ont profité d'une audience préliminaire pour dévoiler leurs arguments. Ils expliquent que le procureur, des dirigeants de Nissan et des responsables du ministère de l'Industrie ont décidé de faire tomber le patron franco-libanais dès mars 2018 parce qu'il prévoyait un rapprochement capitalistique entre Renault et Nissan. Et pour le faire chuter, ils auraient multiplié les actes illégaux. Le procureur aurait ainsi utilisé des employés de Nissan pour récupérer des documents confidentiels à l'étranger. Il aurait aussi fait voler l'ordinateur portable de l'ancien avocat de Carlos Ghosn et il aurait détourné la loi sur le plaidé coupable. Et donc les avocats listent toutes ces irrégularités dans deux gros mémoires qu'ils ont remis à la cour et ils demandent au juge de faire annuler l'ensemble de la procédure. Alors la démarche est très spectaculaire mais elle n'a aucune chance d'aboutir. Le principal avocat de Carlos Ghosn, Hirona Kassan, vient de nous dire que la cour n'aurait probablement jamais ce courage et qu'il y aurait donc bien un procès. Quand, on ne le sait toujours pas, cela devrait démarrer l'an prochain mais probablement très tard dans l'année tant le dossier est gigantesque.
Au Liban, au Chili, les manifestations contre la vie chère, la précarité économique se durcissent. À Beyrouth, des milliers de personnes se pressent dans les rues, osant même des slogans contre le Hezbollah. À Santiago, placé sous état d'urgence, les affrontements ont déjà fait 18 morts et la grève générale a été proclamée. Et puis en Bolivie, c'est aussi la grève générale pour raison électorale cette fois. Le pays attend toujours des résultats définitifs, 3 jours après le scrutin présidentiel, pour lequel le président sortant Evo Morales revendique une victoire dès le premier tour, tandis que son opposant Carlos Mesas s'appuie sur les premiers résultats proclamés pour se considérer toujours dans la course. Hier, la ville de Santa Cruz était totalement bloquée par les manifestations. Défilé des deux camps également à La Paz où s'est rendue Alice Campagnol.
Démonstration de force pour des milliers de partisans du président hier après-midi à La Paz. Ils veulent eux aussi montrer qu'ils sont très nombreux et déterminés.
Nous on leur dit, ils ne reviendront pas au pouvoir. Car ça nous a coûté de construire la Bolivie. Et nous sommes très contents du travail qu'a fait notre président Evo.
Eusebia, présente dans la foule, affirme comme beaucoup d'autres que s'il y a un second tour, elle est prête à lutter pour Evo Morales, son président.
Un second tour, impossible, il n'y arrivera pas, mais ça. Et puis nous sommes très bien préparés. Nous, les gens de la campagne, on va tout bloquer, on va rien laisser entrer dans la ville. Ni patates, ni légumes, rien du tout.
En parallèle de cette manifestation qui est restée pacifique, les étudiants de l'opposition se sont réunis devant la cour électorale. Il y a eu des heurts en fin de soirée et ils accusent toujours les autorités de fraude.
Nous sommes là pour dire notre désaccord avec tout ce que fait Evo Morales, avec la fraude qu'il a mise en place. Il ne respecte pas le vrai vote du peuple. Et c'est absolument faux que l'on est contre le vote des peuples indigènes, des ruraux. Nous, on est là à cause de la fraude.
La Paz, Alice Campagnol, France Inter.
Il est 8h09, toujours beaucoup de questions après la découverte de 39 corps dans un camion au Royaume-Uni.
Le chauffeur, un jeune nord-irlandais de 25 ans, a été interpellé. Une enquête pour meurtre est ouverte et l'on tente de retracer le parcours de ce conteneur venu de Zeebrugge en Belgique via la Manche puis la Tamise, avec à l'intérieur 38 adultes, un adolescent dont on ne sait encore rien, ni identité, ni origine, ni comment ils sont arrivés dans ce conteneur frigorifique dans lequel ils sont probablement morts de froid. Un drame dont les contours restent donc très flous, mais qui ressemble à une énième tragédie de l'immigration clandestine, rendue plus difficile encore depuis le renforcement des contrôles dans le port de Calais. Écoutez ce témoignage de Sébastien Rivera, secrétaire général de la Fédération nationale du transport routier pour le Pas-de-Calais, joint par Rémi Brancato.
On a pu constater que les réseaux allaient vers d'autres ports. J'ai mes collègues, notamment en Normandie, qui m'informent que les ports normands ont une recrudescence de tentatives d'intrusion de migrants. On a constaté forcément, depuis le démantèlement de la jungle, une présence migratoire nettement moins importante sur Calais. Il y a une exploitation de la misère humaine, hein. C'est des réseaux de passeurs qui exploitent les migrants et vont les diriger effectivement vers d'autres ports, dont certainement Zeebrugge. Calais a été l'un des premiers ports à être sujet à cette problématique de la migration. Ça fait quand même de nombreuses années que le port, le tunnel, les transporteurs ont mis en place des mesures de sécurité. Donc oui, c'est effectivement un port où il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de passer compte tenu des différents contrôles et des mesures de sécurisation prises par les transporteurs.
Les intempéries dans le sud, c'est encore la Haute-Corse en vigilance orange ce matin. Hier, les fortes pluies qui se sont abattues notamment sur l'Occitanie ont causé d'importants dégâts à Perpignan, Narbonne ou encore Béziers. Une femme a été hospitalisée en urgence absolue après avoir été retrouvée inanimée dans une vigne à plusieurs dizaines de mètres de sa maison de l'Hérault. Et ce matin et jusqu'au 4 novembre au moins, les lignes SNCF entre Sète et Narbonne sont totalement coupées pour cause de coulées de boue sur les voies. Et puis, d'autres perturbations sont encore à prévoir sur les rails pour les trains reliant Paris à Nantes, Rennes ou Bordeaux, du fait cette fois d'une grève au centre de maintenance de Châtillon, d'où partent donc les TGV pour l'ouest du pays. La fin de l'ère Draghi à la Banque Centrale Européenne, dernière réunion des gouverneurs cet après-midi à Francfort, avant une passation de pouvoir à Christine Lagarde lundi, et c'est une BCE bien différente que va découvrir l'ancienne patronne du FMI, car en 8 ans de règne, l'italien Mario Draghi, alias Il Dottore, a totalement modernisé cette institution européenne, mis un terme à la spéculation contre l'euro. Et cependant, c'est sur un bilan contesté qu'il fait aujourd'hui ses adieux. Delphine Simo.
Cravate rouge, les jours ordinaires, bleu pour les grandes occasions. Loin du cliché de l'italien volubile, la parole de Mario Draghi est rare. Chaque jeudi, les marchés guettent donc la couleur de sa cravate. Diplômé du prestigieux MIT américain, passé par la Banque mondiale et Goldman Sachs, son profil tranche, discret mais prêt à sortir du cadre quand les circonstances l'exigent, comme en 2012, lorsque la spéculation se déchaîne contre les dettes espagnoles, italiennes et portugaises, l'italien annonce sobrement
« La BCE est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. »
Une phrase qui suffit à calmer les marchés, sauver l'euro. Avec lui, la BCE est en première ligne pour soutenir la croissance, quitte à faire tourner la planche à billets, ouvrir les vannes de l'argent facile, 2600 milliards d'euros injectés, mesure anti-crise inédite qui dope l'économie mais alimente aussi la bulle financière. Tour à tour adulé, Super Mario est critiqué pour son laxisme, à tel point que le tabloïd allemand Bild l'a surnommé « Comte Draghila », un vampire suçant l'épargne des contribuables allemands.
Delphine Simon, la chute libre des résultats de Boeing, l'avionneur américain qui accuse une baisse de 21% de son chiffre d'affaires. Principale cause de ces résultats catastrophiques, les deux accidents survenus sur des 737 MAX et l'incertitude pour l'avenir de ces appareils pour lesquels Boeing espère les autorisations américaines et européennes pour voler à nouveau. Quel sera notre quotidien en 2100? Quelle vie face au réchauffement climatique et à la montée des eaux? Les chercheurs de l'Alliance nationale pour l'environnement se sont penchés sur les conséquences très concrètes de la montée du niveau de la mer, 50 cm, 1 mètre, jusqu'à 2 mètres d'élévation du niveau ont été envisagées, avec des conséquences tout simplement dramatiques, Célia Kiré.
Si la mer ne monte que de 50 cm d'ici 2100, les conséquences seront modérées à sérieuses. Mais si elle s'élève de 1 mètre, ce sera grave. Et si on atteint 2 mètres, les effets seront extrêmes. Il y aura alors des crises répétées avec des exodes massifs, davantage de pollution, des écosystèmes en moins, une alimentation moins diversifiée et plus globalement une forme de décroissance subie, voire le chaos. Pour Audrey Bétinger de l'INRA, le but est d'éclairer l'action publique.
Ça se traduit surtout par des tempêtes beaucoup plus destructrices, beaucoup plus répétées, une salinisation des terres à répétition. Or, on sait bien que dans les zones de delta, on a des très bonnes terres agricoles qui sont des greniers vraiment pour les pays concernés. On a un focus notamment sur le bassin aquitain où on sait que quand même on a de nombreuses stations balnéaires. On ne sait pas encore comment ce problème peut être pris en compte par les sociétés d'assurance. Les infrastructures portuaires, les industries qui sont sur les zones côtières, si elles sont amenées à être inondées, ça crée des coûts énormes.
Et en effet, l'érosion du littoral en Aquitaine entraînerait à la fois un boom de la population bordelaise après 2050 et une nette diminution des terres agricoles. Or, il faut agir avant 2040 sur les gaz à effet de serre pour limiter les dégâts. Sinon, le phénomène sera irréversible.
Et puisqu'on parle de réchauffement climatique...
C'est le vêtement que l'on a tous dans sa garde-robe, celui qu'on peut enfiler tant pour se rendre au travail que pour jardiner le dimanche. C'est aussi le vêtement le plus polluant à produire, le blue jean. C'est 2,3 milliards de pièces vendues chaque année dans le monde. Et surtout, c'est 7 à 10 000 litres d'eau nécessaires à sa fabrication. Un désastre écologique, sans compter les kilomètres parcourus depuis le champ de coton jusqu'à votre armoire, 65 000 en moyenne. Alors certains veulent croire en un jean écolo à Florac, en Lozère. Une entreprise familiale s'est convertie dans le jean vert. Lola Fourmi.
Il y a 3 ans, Julien Tuffery et sa femme Myriam ont laissé tomber leur carrière d'ingénieur pour récupérer la fabrique de jeans familiale à Florac.
Je fais partie de ces jeunes chefs d'entreprise, je crois beaucoup à l'activité manufacturière française, à condition qu'elle se métamorphose. Les super conditions de travail, aujourd'hui en 2019, elles ne sont pas réservées aux entreprises du numérique, du digital et du web. Vous faites des super open space, vous remplacez juste ordinateur par machine à coudre et ça marche.
Ici, le plus bas salaire est fixé à 15% au-dessus du SMIC. Mais l'entreprise fait aussi mieux côté écologie. Pour remplacer le coton de la toile de denim, très gourmand en eau, elle a choisi la laine récupérée chez des éleveurs du coin comme François Mante.
Intellectuellement, c'est génial. Parce que sur notre routine, on dépasse la réflexion purement agricole, quoi, et on essaye de faire, de revaloriser cette matière noble, quand même, qui est la laine, quoi.
Des jeans en laine, mais aussi en chanvre, avec l'aide de Pierre Amadieu, qui transforme la plante en fil.
Les qualités du chanvre, c'est à la fois la matière, mais aussi à la fois les savoir-faire, les métiers et les modèles d'organisation de filières. L'idée n'est pas de faire des filières industrielles, mais avoir des petites filières locales qui permettent d'apporter des réponses locales à des besoins locaux.
Le chanvre, qui était d'ailleurs la plante utilisée à l'origine de la création du jean.
Un autre jean est possible, c'est aussi un reportage en longueur diffusé dans l'émission Interception ce dimanche, juste après le journal de 9h.